Il est maintenant 19h30 ici à Paris, c'est Radio France Internationale que vous écoutez. RFI Soir qui continue avec les dessous de l'Infox. Et c'est avec vous Sophie Malibaud, bonsoir.
Bonsoir Philippe.
Les dessous de l'Infox. Sophie Malibaud.
Et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans les dessous de l'Infox, vrais et faux complots, réalité tronquée, manœuvre électorale sur fond de polarisation de la société. Dans son roman Protocole Chaos, le journaliste José Rodríguez dos Santos dresse le tableau d'une démocratie libérale fragilisée dans le viseur d'une Russie autocratique prête à tout pour imposer son modèle sous la houlette de Vladimir Poutine. Nous accueillons dans un instant l'écrivain journaliste portugais pour évoquer les faits dont il s'inspire et le rôle joué par les réseaux sociaux. Propagande contre propagande dans la guerre qui oppose Israël à l'Iran. Il est très difficile d'y voir clair dans la bataille qui se joue sur les réseaux sociaux. Avec Nathan Gallo des observateurs de France 24, nous verrons comment Téhéran véhicule de fausses rumeurs sur la destruction de F-35 israéliens. Des informations tous azimuts, nous dira Grégory Genevrier, ensuite de la cellule InfoVérif de RFI, avec un florilège d'images détournées ou générées par l'intelligence artificielle, leur publication par des comptes pro-israéliens et pro-iraniens surpasse les vraies images par leur viralité. Mais tout de suite, place à notre invité. Nous accueillons aujourd'hui José Rodríguez dos Santos, auteur d'un livre intitulé « Protocole Chaos » aux éditions Hervé Chopin. Bonjour, J.R. dos Santos, c'est
bonjour.
Comme ça, c'est votre nom d'auteur, d'écrivain. Vous êtes l'auteur de nombreux romans, mais vous êtes journaliste, reporter de guerre, présentateur du journal de 20h au Portugal depuis un quart de siècle.
Oui, non plus que ça, 35 ans, quelque chose ainsi.
D'accord.
Beaucoup.
Une carrière, en tout cas, qui vous a permis d'acquérir une connaissance intime des rouages du pouvoir, des stratégies d'influence, mais aussi des dérives informationnelles. Vous êtes, dans ce livre, en train de faire le récit, un triple récit qui converge vers cette problématique des relations entre Donald Trump et la Russie de Vladimir Poutine. On va avoir le temps de détailler tout cela. C'est tout de même un véritable thriller. Pourquoi avez-vous choisi de passer par la fiction ?
Parce que je trouve que, premièrement, que je travaille toujours dans la fiction. J'ai démarré dans une collection qui s'appelait « Fiction-vérité ». Voire, j'utilise la fiction comme un moyen de raconter des choses vraies. Et je trouve qu'elle est très puissante à rendre certaines réalités vivantes. Par exemple, George Orwell, il a expliqué qu'est-ce que le totalitarisme communiste avec 1984, avec une œuvre de fiction, ça rend les choses plus proches à nous. On comprend mieux les enjeux, pas seulement d'un point de vue rationnel, mais aussi d'un point de vue émotionnel. Car on comprend les personnages, on a une identification avec les personnages, et ce que les personnages subissent, c'est comme si c'est nous à subir ces situations. Alors c'est pourquoi je trouve que la fiction est un moyen très puissant pour dire des choses vraies.
Oui, tout à fait vrai. Et d'ailleurs, vous les sourcez, puisqu'on va tout de suite sauter à la fin du livre où vous avez écrit cette note finale très précieuse dans laquelle vous détaillez toute votre bibliographie et tous les documents sur lesquels vous vous êtes appuyé pour finalement attester de la véracité des faits que vous exposez.
Exactement, même parce qu'il y a des choses que je présente dans le roman qui sont du point de vue légal un petit peu sensibles, parce que je fais certaines accusations envers Trump, par exemple, qui sont compliquées. Alors, je donne toutes mes sources et elles ont été vérifiées par des avocats à cause des procès judiciaires qui peuvent apparaître. Alors, il fallait être très minutieux.
Oui, parce que vous allez très loin dans cette relation que vous détaillez entre Donald Trump, son arrivée au pouvoir, et Vladimir Poutine. Justement, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui, dans ce livre, sont les preuves les plus flagrantes de ce lien que vous établissez ?
Alors, bon, il y a un tas de preuves. Alors, ce qu'on pense vraiment, pour aller directement au sujet, ce qu'on pense, c'est que Donald Trump est un agent de Vladimir Poutine. Cette suspicion, elle commence dans la communauté de l'intelligence, notamment par exemple la CIA. 4 anciens directeurs de la CIA le disent direct ou indirectement. Par exemple, l'ancien directeur de la CIA, John Brennan, il a convaincu qu'évidemment, il y a des éléments compromettants pour Trump aux mains des Russes. L'ancien directeur de la CIA, Michael Hayden. Et aussi, l'ancien directeur de la CIA, Bill Burns, a dit ça à Bob Woodward, le journaliste de Watergate. Et l'ancien directeur de la CIA adjoint, Michael Morell, il a dit à la télévision, directement, Donald Trump est un agent involontaire de la Russie. Il a été embauché par Vladimir Poutine.
Tout est dans cette nuance aussi, entre le volontaire et l'involontaire.
Oui, parce qu'on ne peut pas démontrer qu'il était volontaire, mais au moins involontaire, car il fait tout ce qui est agréable à la Russie, tout ce qui est convenable à la Russie. On arrive même à un point où on pense que son projet n'est pas « Make America Great Again », mais plutôt « Make Russia Great Again ». C'est grandir la Russie, pas grandir les États-Unis. En effet, ce qu'il fait, c'est affaiblir les États-Unis, affaiblir l'Occident. Et ça, en obéissance à la stratégie de la Russie, que veut évidemment détruire l'Occident.
Parce que le titre de l'ouvrage, Protocole KO, laisse entendre, et on le voit dans le fil du roman, qu'il existe ce dossier extrait d'un ordinateur et sur lequel toute la stratégie est dévoilée. Dans la réalité, ce n'est pas tout à fait comme ça que cela se passe, mais racontez-nous comment se déploient les choses.
Premièrement, il faut comprendre l'enjeu de la Russie. Vous avez bien dit, le protocole KO comme document, c'est une fiction. Toutefois, il y a un protocole KO qui est un jeu aujourd'hui et on l'applique dès la Russie et certains mouvements en Occident aussi. Alors, le projet de la Russie est basé sur les idées d'un philosophe russe qui s'appelle Alexander Dugin. Alexander Dugin, il a créé en 1993 un parti, c'est le Parti National Bolchevique. Il faut googler ce mot-là, Parti National Bolchevique, et on voit le drapeau. Et le drapeau de ce parti mélange le drapeau communiste et le drapeau nazi. Et ça nous dit tout sur le projet. Alors, il a publié en 1997 un livre, Fondation de la géopolitique, où il explique les enjeux. Et ce livre-là est lecture obligatoire à l'Académie de l'État-major de l'armée russe. Et c'est vraiment le guide, c'est le Mein Kampf, disons ainsi, du poutinisme. Qu'est-ce qu'il dit dans ce livre-là? Il dit que la Russie est un empire, et un empire qui doit élargir ses frontières. Pour le faire, il faut encourager le nationalisme en Russie. Mais il faut faire plus que ça. Et il dit que la Russie, c'est Rome. C'est un empire continental. Et l'Occident, c'est Carthage. Un empire mercantile atlantique, disons ainsi. Et puis il conclut, Rome doit détruire Carthage. Voire, la Russie doit détruire l'Occident. Comment le faire ? Alors, on applique un protocole là. Il dit, il faut encourager les mouvements isolationnistes aux États-Unis, encourager les divisions ethniques, religieuses, raciales, n'importe quelles, polariser la société pour amener à la chute des États-Unis et surtout au isolement des États-Unis. Et quand on arrive à faire ça, les États-Unis vont remettre en cause l'OTAN. Et l'OTAN, c'est la protection de l'Europe. Puis que l'OTAN n'est plus là, ou l'article 5 au moins, n'est plus là, la conséquence c'est que l'Europe sera seule. Et là, on sera prêt à prendre l'Europe. Et il parle d'une Russie de Vladivostok à Dublin, de Vladivostok à Lisbonne et de Vladivostok à Brest. Oui. Alors c'est ça le grand plan de la Russie et Trump est un utile dans ce grand plan.
Est un utile, un idiot utile, comme on dit, c'est l'expression consacrée.
Oui, en effet, il y a un ancien directeur de CIA qui dit ça, il est un idiot utile de la Russie, de Poutine.
Ils sont un certain nombre, hein, parce que d'ailleurs, juste les 9 et 10 juin dernier, Alexandre Dugin accueillait à Moscou toute une flopée d'influenceurs occidentaux, des gens comme Jeffrey Sachs. Il y avait aussi le père d'Elon Musk, présent à Moscou récemment avec Alexandre Dugin et cet oligarque Malofeyev. Ce qu'on voit, c'est qu'ils sont très actifs aujourd'hui.
Oui, Moscou est devenu une mecca pour ces mouvements-là, un petit peu comme c'était jadis avec l'Union soviétique pour les mouvements communistes. Maintenant, c'est pour les mouvements nationalistes. Et nous sommes devant maintenant une situation présentée par Karl Popper. On dit souvent gauche et droite. J'aime pas cette expression, mais j'aime plutôt l'expression de Karl Popper. La société ouverte et ses ennemis. Et l'Occident, c'est la société ouverte. Ils sont les régimes libéraux. Et ses ennemis sont tous les régimes totalitaires, soit nationalistes ou dictatoriales, soit théocratiques, soit socialistes, comme la Chine ou la Corée du Nord. C'est vraiment cette confrontation entre la société ouverte et ses ennemis. Trump, il est inutile dans le sens qu'il fait exactement ce que Dugin a dit qu'il fallait faire. Il est en train non seulement d'affaiblir les États-Unis, mais aussi l'OTAN. Parce qu'on sait clair maintenant que s'il y a une attaque russe contre l'Europe, les États-Unis ne seront pas là. Alors, c'est une grande victoire pour la Russie d'arriver à faire ça. Et c'est pourquoi il y a cette alarme dans les capitales européennes qu'il faut nous réarmer pour dissuader les Russes d'attaquer.
Alors, ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que vous revenez sur un quart de siècle de mise en œuvre de ce plan par Moscou. Vous commencez en 1999 avec une série d'attentats qui est à l'origine finalement de la deuxième guerre de Tchétchénie. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez commencé par là ?
C'est le moment où Poutine, il était devenu le premier ministre, c'était Boris Yeltsin le président. Et évidemment, c'était important pour lui de devenir populaire. Et alors, un tas d'attentats se sont passés en Russie, dans des bâtiments. Des centaines de personnes sont tuées. Et dans un de ces attentats, on a découvert, par hasard, qu'en effet, les gens qui ont planté la bombe étaient FSB, le KGB.
Le service secret.
Alors, ouais. C'était pas les Tchétchènes. Alors, ils ont ouvert une enquête dans le Parlement russe, une commission d'enquête sur ça, et soudain, les membres de cette commission ont commencé à décéder. Alors, l'enquête est arrêtée parce que, évidemment, ils touchaient à des sujets trop sensibles. Alors, le roman, justement, démarre avec un policier russe qui fait partie de ces enquêtes et qui va nous amener à comprendre comment Poutine, en utilisant ces attentats, est devenu si fort et si populaire, car il a projeté l'image d'un chef puissant qui n'hésitait pas à défendre la Russie, quand il était apparemment derrière les attentats, selon les premières conclusions, quand on a découvert le rôle du FSB derrière au moins un de ces attentats. Et c'est ça qui est important dans ces épisodes que je présente dans le roman.
Et alors, l'autre versant, le versant américain du récit, se concentre notamment sur un personnage du nom de Leroy Roderick, qui lui vit en Louisiane, et qui est très intéressant parce que tout à l'heure, vous nous parliez de l'aspect humain, de l'aspect émotionnel. Et en décrivant ce personnage, on a vraiment l'impression que vous décrivez par le menu toute une partie de l'électorat de Trump. Est-ce que on peut rentrer un petit peu dans la fabrication de ce personnage?
Alors, dans beaucoup de mes romans, ce que je fais, quand il y a des sujets qu'on ne comprend pas de l'autre côté, j'essaie de comprendre le personnage. On dit que Charles de Gaulle a dit que tout comprendre, c'est tout pardonner. Je ne suis pas d'accord. On peut comprendre et ne pas pardonner, et ne pas être d'accord. Par exemple, j'ai écrit un roman sur le djihadisme, et on entre dans la tête d'un djihadiste, on comprend pourquoi il fait ces choses, mais on n'est pas d'accord, mais toutefois, on comprend.
Et là, vous nous faites rentrer dans la tête d'un électeur de Trump.
Exactement, c'est ça. Leroy, c'est un redneck, ils appellent ça redneck, voire un Américain blanc du Sud, pauvre, qui travaille dans des usines, dans le business du pétrole, en tant qu'ouvrier. Et on voit ses problèmes personnels, la pollution qui existe là, tout ça. Et il voit des minorités que, grâce à des politiques de discrimination positive, le dépassent, pas pour le mairie, mais parce qu'il y a des quotas pour des minorités. Alors, il y a des ressentiments qui commencent à apparaître. Et au même instant, on voit qu'il aime un show à la télévision américaine, un reality show. C'est un programme qui s'appelait The Apprentice. Et il aimait beaucoup un personnage qui était Donald Trump. Il le trouvait très amusant. Et soudain, ce personnage a commencé à faire des déclarations politiques qui était un petit peu hors le programme, mais il était d'accord avec elle. Alors on va commencer à voir comment ce personnage va commencer à suivre Donald Trump et s'affilier dans ses idées, et dans une société très polarisée, car même les démocrates, les libéraux, Et ils sont aussi extrémisés avec le wokisme et tout ça, qui a déclenché des réactions de l'autre côté. Mmh. Il y a même un chapitre où Leroy est devant le wokisme et les idées du wokisme qui sont évidemment un petit peu bouleversantes elles aussi.
Et ce qui est très important et ce qui est capital même dans votre roman, c'est sa rencontre, la rencontre de ce personnage avec les réseaux sociaux.
Oui, exactement. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il va accéder aux réseaux sociaux et il va voir un tas d'informations qui sont dans les réseaux sociaux, qui ne sont pas dans les médias traditionnels. Parce que, qu'est-ce que les réseaux sociaux ont fait ? Ils ont détourné une sorte de contrôle dans les médias traditionnels, car les journalistes, normalement, quand il y a, par exemple, des déclarations qui sont ou diffamantes, ou fausses, ou qui font appel à la violence, bon, on évite ça. Mais dans les réseaux sociaux, on peut le faire. Parce que c'est pas contrôlé, pas du tout. Et alors, il voit un tas de messages. Ce qu'il ne sait pas, c'est que plusieurs de ces messages qu'il reçoit, par exemple, de Richard, qui habite à Detroit, en effet, c'est pas Richard, c'est Boris qui habite à Saint-Pétersbourg, qui se déguise en Richard de Detroit et qui va envoyer des messages pour aider à élire Donald Trump. Et ça, ça a été fait. Il y a le rapport Mueller aux États-Unis qui le démontre très clairement, et d'autres rapports aussi. Et en effet, ça a commencé avec le Brexit. Le Brexit, c'était l'essai pour les élections de 2016 aux États-Unis. Et c'est la première fois que les Russes ont utilisé, grâce à des algorithmes d'une agence britannique qui s'appelait Cambridge Analytica, ils ont utilisé cet algorithme pour comprendre l'idée politique de chaque utilisateur de Facebook. Et ils pouvaient envoyer des messages pour changer les opinions politiques de chaque personne pour arriver au Brexit.
Donc c'est comme ça que vous nous emmenez finalement dans l'Internet Research Agency de Saint-Pétersbourg.
Exactement, qui a existé. C'était du groupe Wagner de M. Prigogine, qui a eu un petit accident il y a quelque temps.
Et alors, qui est décédé dans un accident dans un avion. D'avion.
Accident, on l'appelle.
Après avoir tenté de prendre...
faire un coup en Russie. Et soudain, il a eu un accident dans un avion. Mais ça se passe évidemment avant ces événements. Alors, il a créé cette agence qui est évidemment liée à l'État russe, mais déguisée en tant qu'une chose privée. Mais c'était effectivement l'État russe qui était derrière là. Alors, nous aurons notre personnage russe qui sera dans cette agence. Il va envoyer ses messages. Comment il fait ça ? Je vous donne un exemple. J'ai écrit un livre qui s'appelle Immortel sur l'intelligence artificielle. Et là, j'explique, par exemple, les changements dans la médecine grâce à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, une personne, elle a un cancer. Alors, on donne une chimiothérapie pour tout le monde qui a ce cancer. Mais le problème, c'est que chacun de nous a un ADN différent. Alors, cette chimiothérapie, elle est efficace pour certaines personnes, mais pas pour des autres, car l'ADN est différent. Et alors, il faut à tout l'instant changer de chimiothérapie pour les gens que ça ne marche pas, pour essayer une nouvelle chimiothérapie qui soit efficace. Et alors, avec l'intelligence artificielle, on est en train de développer des médicaments. On étudie, par exemple, l'ADN de la personne qui est malade. On étudie l'ADN de la tumeur. Et puis, l'intelligence artificielle va développer un médicament spécifique pour ce cancer et pour cette personne.
Et vous nous dites qu'en fait, cette personnalisation à l'extrême, elle est appliquée à l'information.
Exactement.
Ou à la désinformation.
Exactement. Alors, cette technique qu'on est en train de développer pour la science, pour aider à la santé des gens, on l'utilise pour la politique, pour manipuler les gens. Comment ils font ça ? Alors, Cambridge Analytica, ils ont développé un algorithme qui permet de comprendre l'opinion politique des gens d'après la façon qu'elle navigue dans les réseaux sociaux, dans l'Internet. Et en utilisant cette information que Cambridge Analytica a eu accès, en effet, on peut envoyer des messages très ciblés, pour manipuler l'opinion des gens.
Il y a des pages entières sur la colère dans votre livre. Aujourd'hui, la colère, elle est dans les rues de Los Angeles. Donc les gens sont sortis dans la rue pour contester la politique migratoire de Donald Trump. Ça a commencé le 6 juin dernier. Et puis Donald Trump, lui, est passé outre la personne du gouverneur de Californie en décidant d'envoyer sur place des éléments de la garde nationale ainsi que des Marines. Et le gouverneur Gavin Newsom a réagi mercredi 11 juin, on l'écoute.
California may be first. But it clearly will not end here.
La Californie est peut-être la première, mais clairement, ça ne va pas s'arrêter là. D'autres États vont y passer. Et ensuite, c'est la démocratie qui est visée. La démocratie est attaquée sous nos yeux. Ce moment que l'on redoutait est arrivé.
Comment est-ce que vous réagissez à cette déclaration? C'est vraiment l'application de tout ce protocole que vous décrivez dans votre livre?
Oui, c'est le programme russe de détruire l'Occident. Je vous ai dit, Rome doit détruire Carthage, la Russie doit détruire l'Occident. Évidemment, Trump est inutile dans cette stratégie. Nous voyons ici, à cet instant, cette confrontation dont je parlais et dont Karl Popper parlait entre les sociétés ouvertes et ses ennemis. Et Donald Trump est un ennemi de la société ouverte. Il est en train de détruire les États-Unis, la société libérale.
Et surtout l'état de droit, en fait. Le processus démocratique, tout ce qui est prévu en matière de droit, il passe outre.
Oui, mais l'état de droit, c'est l'état libéral. Les régimes socialistes, les régimes théocrates, les régimes nationalistes, ils n'ont pas d'état de droit. C'est le parti ou le chef qui a tout le pouvoir, disons ainsi. Et l'état de droit, c'est pas ainsi. Il y a une division de pouvoir. Il veut concentrer tout le pouvoir au centre. Et ça, c'est le principe de la dictature.
Bien, écoutez, en termes de manipulation de l'information, etc., c'est vraiment un livre à lire, Protocole Chaos, aux éditions Hervé Chopin. Merci à l'auteur J.R. Dos Santos d'être passé dans ce studio.
Merci à vous.
Un moyen parmi d'autres dans la lutte contre la désinformation, c'est le fact-checking qui consiste à démonter méthodiquement les infox qui circulent en masse sur les réseaux sociaux et tout particulièrement dans le contexte de la guerre. Depuis les toutes premières attaques d'Israël contre les cibles nucléaires iraniennes et le début de la riposte iranienne contre Israël, la désinformation prolifère sur Internet. Nathan Gallo, des observateurs de France 24, et Grégory Genevrier de la cellule InfoVérif de RFI nous ont rejoints dans ce studio. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
On commence avec vous, Nathan Gallo. Vous épinglez une campagne de désinformation ciblant les F-35 israéliens.
Oui, exactement. Alors retournons le 13 juin, au premier jour de la guerre. Toute la journée, Israël annonçait avoir mené de nombreuses frappes contre l'arsenal anti-aérien et balistique iranien. Mais le soir, le Tehran Times, réputé proche du pouvoir iranien, annonce que l'armée iranienne a capturé un pilote israélien. L'agence de presse iranienne Tasnim News va même plus loin et affirme que deux avions de chasse israéliens auraient été détruits. Même son de cloche du côté de la télévision d'État Press TV. Elle soutient que l'Iran est devenu le premier pays à abattre des avions de combat F-35 de cinquième génération. Ces affirmations, elles ont été aussitôt dénoncées par l'armée israélienne via son porte-parole arabophone Avishai Edarai qui critique, je cite, « les faux médias iraniens » qui diffusent des mensonges sans fondement.
Alors en fait, il s'agit bien de vrais médias iraniens et en fait, ils vont encore plus loin, Nathan.
Oui, le lendemain, Press TV publie un article d'analyse sur comment le système anti-aérien iranien aurait détruit ces deux avions et déclare même qu'un troisième F-35 a été détruit. Deux jours plus tard, le 16 juin, l'agence Tasnim News déclare qu'un quatrième avion de ce type a été détruit et que les débris ont été retrouvés. Autant d'allégations qui sont destinées finalement à nier les avancées de l'armée israélienne qui a déclaré le même jour avoir établi, je cite, une supériorité aérienne totale sur Téhéran.
Alors problème, aucune image ne vient prouver les dires de l'Iran.
Exactement, l'armée iranienne n'a publié finalement aucune image officielle de F-35 détruit sur son sol et l'on ne retrouve aucune vidéo ou photo de tels débris en ligne. Contactée par les observateurs, l'agence Jane's Intelligence, qui est spécialisée dans l'analyse militaire en sources ouvertes, a indiqué qu'il n'y avait à ce jour aucune preuve que l'Iran avait abattu ses F-35. Il y a même plusieurs spécialistes qui estiment par ailleurs qu'il semble peu probable que le système anti-aérien iranien, en grande partie détruit par l'armée israélienne, ait pu atteindre justement ces F-35. Alors le 18 juin, la télé iranienne a toutefois diffusé des images des débris d'un drone de reconnaissance israélien dont la destruction a été confirmée par Israël. Selon le spécialiste à la Fondation pour la Recherche Stratégique Étienne Marcuse, ce pourrait être la première destruction réalisée par le système de défense anti-aérien iranien depuis le début de la guerre.
Et de nombreuses photos circulent en revanche sur les réseaux sociaux qui veulent faire croire à de telles destructions par l'Iran.
Oui, exactement, des photos générées ou modifiées par IA qui ont été partagées en masse sur X et prétendaient montrer des carcasses d'avions au sol. Mais à chaque fois, aucun de ces modèles d'avions de chasse produits par IA ne correspondait au F-35. Il y avait aussi une photo d'une pilote de chasse qui a commencé à circuler en ligne, mais là encore, rien à voir, il s'agissait d'une ancienne photo d'une pilote chilienne.
Merci Nathan Gallo. Ce travail de vérification est à retrouver sur le site des observateurs de France 24, où figurent d'ailleurs de nombreux autres exemples. Ce que l'on remarque aussi, c'est que les infox proviennent de tous les côtés. Apparemment, pour gagner la bataille numérique, tous les moyens sont bons. Grégory Genevrier.
Oui, à commencer par la diffusion massive de contenus générés par intelligence artificielle. C'est simple, certaines images synthétiques cumulent plus de vues que des photos authentiques prises sur le terrain. L'un des exemples marquants, c'est une vidéo aérienne censée montrer une ville israélienne endommagée suite aux frappes iraniennes. Durant 16 secondes, on y voit un quartier résidentiel totalement détruit. Je vous cite le commentaire, cette vue n'est pas à Gaza, mais dans le sud de Tel Aviv.
Sauf que ces images ne proviennent pas d'Israël.
Ni même de Gaza ou d'Iran, puisque cette vidéo a été entièrement générée par intelligence artificielle. Le détecteur d'IA que nous avons utilisé indique que c'est le générateur Mochi 1 qui serait à l'origine de ces images. Cet outil a la cote, déjà car il est bon marché, entre 0 et 50 centimes par vidéo, et parce que les résultats sont relativement bluffants. Une recherche par mots-clés nous a aussi permis de retrouver le compte à l'origine de ce clip vu plusieurs millions de fois. La date de publication indique le 28 mai 2025, soit bien avant les affrontements entre Israël et l'Iran.
À cela s'ajoutent aussi d'innombrables contenus sortis de leur contexte.
Des images prises en Ukraine, au Liban ou même en Géorgie sont recyclées pour désinformer sur la situation au Moyen-Orient. Dernier exemple en date avec cette vidéo impressionnante censée montrer une pluie de missiles iraniens tombant sur Israël. On y voit une dizaine de boules incandescentes tomber du ciel en pleine nuit. Mais grâce à une recherche par image inversée, on sait qu'il s'agit de débris d'une fusée SpaceX détruite lors de son ascension. C'était en janvier 2025, bien loin du Moyen-Orient. Mais quand bien même, l'infox cumule plus de 3 millions de vues rien que sur X.
Et puis l'autre phénomène qui revient désormais à chaque guerre, c'est le détournement des images issues de jeux vidéo.
Oui, ces clips spectaculaires issus de plateformes de simulation militaire ultra réalistes pullulent sur les réseaux sociaux ces derniers jours. On retrouve notamment une vidéo censée montrer un avion de chasse israélien abattu par un missile anti-aérien iranien. Problème, cet enregistrement, vu plus de 15 millions de fois, provient en réalité du jeu War Thunder.
Alors, est-ce qu'il y a des indices qui permettent de ne pas se faire avoir ?
Eh bien, le meilleur conseil, c'est d'abord d'observer avec attention les flammes, la dissipation des fumées et les explosions qui ne collent pas avec la réalité. Il faut aussi écouter attentivement le son, souvent trop propre, trop parfait. Ces clips ne sont d'ailleurs jamais partagés par des sources de confiance. Ces éléments d'analyse cumulés à une recherche par image inversée permettent de ne pas tomber dans le panneau face à ces vidéos inauthentiques, souvent plus virales que les vraies images de cette guerre.
Merci Grégory Genevrier. On peut rappeler aussi que s'informer uniquement sur les réseaux sociaux comporte des risques. Mieux vaut chercher les sources fiables et vérifier les informations. Les dessous de l'Infox, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à nos invités et chroniqueurs, ainsi qu'à Hélène Avril, à la réalisation. Pour retrouver l'émission en ligne, ainsi que nos vérifications, je vous invite à taper Info Vérif RFI dans un moteur de recherche. On se retrouve ici même la semaine prochaine. Et tout de suite, je vous laisse en compagnie de Philippe Le Caplain.
Merci Sophie Malibeau, les dessous de l'Infox, donc à retrouver sur l'appli RFI et bien évidemment sur le site internet www.rfi.fr. Dans un peu plus d'une demi-heure, pour dire les choses plus posément, ce sera Afrique Soir. Et ce sera avec vous, Sylvie Berruet, l'actualité sur le continent africain, avec à la une, la République démocratique du Congo.
Oui, bonsoir à tous. Nous parlerons donc de ces divergences à Kinshasa avant la signature de l'accord de paix entre Kigali et Kinshasa. Une signature qui est prévue la semaine prochaine à Washington, aux États-Unis. L'opposition congolaise critique cet accord préliminaire. Le géant français de l'uranium Orano dénonce le projet de nationalisation par le Niger de sa filiale Somaïr. Elle parle, Orano, d'une spoliation des actifs miniers et d'une violation des accords avec Niamey. Au Rwanda, la principale opposante à Paul Kagame a été arrêtée hier. Victoire Ingabire, soupçonnée d'avoir joué un rôle dans une affaire de déstabilisation de l'État. Et puis à Madagascar, une fête spirituelle qui s'est tenue ce vendredi. L'ethnie Sakalav du Ménabé, implantée sur la côte ouest de la grande île Madagascar, a sacré son nouveau souverain et ce sera le dossier d'Afrique Soir.
Avec vous, Sylvie Berruet. Donc rendez-vous est pris pour tout à l'heure.